is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories. Bonsoir Bruxelles, bonsoir Paris, salut le monde. Nous voici réunis pour une édition spéciale des Livres pour Dire, l'émission de Scriptalinéa et de ses collectifs d'écrits, aujourd'hui hors studio. Scriptalinéa s'inscrit dans un projet d'éducation permanente avec pour projet une accessibilité à la culture via la promotion de l'écriture au sein des collectifs d'écrits. Et ce, avec une ouverture d'esprit à tous les publics sans distinction. S'inscrire dans un collectif d'écrits, c'est s'inscrire dans un projet de vivre ensemble, en partageant, en nourrissant sa réflexion, c'est débattre et écrire sur un thème relatif aux enjeux sociétaux. C'est écrire pour le plaisir et diffuser au-delà de son groupe. À notre époque, suite à une succession de crises, la culture est-elle vraiment accessible à tous? Nous sommes réunis dans un temple dédié à la culture, l'Académie d'Ixelles. Ici, des professeurs se battent non seulement contre les fausses notes et les langues qui fourchent, mais aussi contre des moyens peu suffisants. Bienvenue à nos invités, mesdames Evania Kass, Donatienne Capel, Isabelle De Vrindt, Sylvie Van Mol, Patrick De Clercq et monsieur Serge De Vors. Alors, pourriez-vous vous présenter? Sylvie, tu peux commencer, s'il te plaît.
Bonjour. Alors, moi, je suis Sylvie. Je suis comédienne, régisseuse et future organisatrice d'événements. Et donc, moi, je suis ici pour représenter la tricoterie Fabrique de Liens. Et je suis également la coordinatrice et la manager du cycle Escapade, dont je vais passer d'ailleurs la parole à l'initiateur de ce projet.
Bonjour, donc moi je suis Patrick De Clercq, l'initiateur d'un iceberg qui s'appelle Music Projects for Brussels, où on essaie d'amener, enfin on n'essaie pas, on amène la culture, la musique classique dans des lieux où ça ne se connaisse pas.
Merci, monsieur De Vos.
Voilà, bonjour à tous, donc Serge. Alors moi je suis à la base professeur de français et puis j'ai fait des études au conservatoire, donc je suis comédien professionnel. J'enseigne à l'académie depuis 1998 et voilà, donc j'ai fait aussi du cirque. Je suis metteur en scène pour des troupes amateurs et passionné par la littérature. Voilà, et je cède la parole à Eva.
Je suis Vania Kass, je suis professeur de chant, art lyrique, musique de chambre vocale à l'Académie d'Ixelles depuis 30 ans, depuis 1994. Et j'essaie d'enseigner la musique classique autant que la musique de variété dans toute sa splendeur aux élèves avec les oreilles musicales ou sans l'oreille musicale. Et on essaie de faire tout pour que les fausses notes deviennent les notes justes.
Un parcours du combattant, hein, parfois. Donatienne, je t'en prie.
Oui, donc moi, c'est donc Donatienne. Je suis enseignante avec une spécialisation en français et langue étrangère et alphabétisation. Donc ça fait depuis maintenant une vingtaine d'années que j'enseigne donc la langue française aux primo-arrivants, tant enfants qu'adultes. Et j'ai aussi pas mal de projets dans mon milieu associatif, tant en école de devoir que à Scriptalinéa, entre autres, mais aussi d'autres assos. Et je suis aussi donc membre de Scriptalinéa et membre de collectif d'écrit.
Isabelle.
Oui, bonsoir. Je peux vraiment embrayer après Donatienne puisque j'ai aussi une formation de romaniste, un passé d'enseignante. Et puis après, une fois que j'ai découvert le monde associatif, je ne l'ai plus quitté. Et j'ai créé, comme tu le disais tout à l'heure, l'association Scriptalinéa où je suis engagée depuis 8 ans maintenant. Et donc, en fait, on développe toute une série de projets d'écriture en collectif avec des publics très, très différents. Et donc, on est aussi responsable de cette émission des Livres pour Dire que tu animes ce soir. Merci.
Merci, Isabelle. Alors, aujourd'hui, nous sommes bien à l'Académie d'Ixelles. Serge, est-ce que tu pourrais nous présenter l'Académie d'Ixelles en quelques mots, s'il te plaît?
Mais donc, ici, à l'Académie d'Ixelles, on peut pratiquer déjà tous les instruments. On a une approche de la musique qui est très, très variée. Ça va de la cornemuse jusqu'au piano, en passant par la guitare, le violon, etc., etc. Donc il y a une sensibilisation à la musique via l'instrument et via évidemment ce qu'on appelait avant le solfège, qu'on appelle maintenant la formation musicale. À côté de ça, il y a évidemment aussi tous les cours en art de la parole, qui vont donc du théâtre à la déclamation, en passant par l'éloquence, et ou l'histoire de la littérature du théâtre, qui est un cours un peu plus théorique. Et on peut également y faire de la danse. Et donc, ce sont des cours qui s'adressent depuis les plus petits. La préparatoire, c'est 6 ans, si mes souvenirs sont bons, jusqu'à... voilà, la limite là, il n'y a pas. C'est jusqu'à ce qu'on veuille. Voilà, c'est un peu ça l'Académie. C'est une des plus grandes académies de Bruxelles, puisqu'on a un peu plus de 1000 élèves ici à l'Académie et un peu plus de 55 professeurs différents dans les trois domaines.
Merci Serge. Et Eva, est-ce que tu as un profil type d'élève?
J'ai des adolescents, j'ai des adultes dans tous les différents niveaux, autant au niveau d'oreille, à quel point ils ont des oreilles musicales ou pas. Et justement, le but, montrer qu'on peut apprendre à chanter jusqu'à un certain niveau, même si on n'a pas d'oreille musicale. Comme je le dirais souvent avec les exemples, que par exemple, je ne me sens pas très douée pour le dessin. Si je décide d'aller au côté beaux-arts, je serais curieuse vraiment, un prof pouvait faire quoi avec nos talents, disons, avec le dessin. En fait, moi, je fais un petit peu au chant pareil. Si quelqu'un vient avec moi, même je chante mal, on m'a dit oui, mais je n'ai pas d'oreille, c'est pas grave. On peut toujours regarder à quel niveau on est avec l'histoire d'oreille musicale ou pas, avec le niveau de justesse, au niveau de rythme. Et petit à petit, on peut essayer de mettre sur l'oreille, comme moi je l'appelle, d'être essayer de d'améliorer l'aspect musical dans toute sa splendeur et quand même faire avancer l'élève et progresser.
Merci Eva. Alors Sylvie, tu peux nous présenter la tricoterie, s'il te plaît, et comment tu as inclus le projet Escapade?
Alors la tricoterie, donc le nom complet de cette salle, c'est la tricoterie Fabrique de Liens. Donc c'est un lieu où le centre, c'est la rencontre qui s'adresse à un public qui n'est pas ciblé. Donc par choix, les fondateurs ont décidé de ne pas avoir un public cible parce que pour eux, la rencontre, eh ben, ça vient de n'importe où. Et donc dans un espace donné qui est la tricoterie, qui a plusieurs salles, eh bien, ils proposent plusieurs univers dans des salles différentes, des événements qui peuvent être présents au même moment et occupés par des publics très divers. Donc ils essayent vraiment de trouver un prétexte à la rencontre via des activités auxquelles on peut participer ou être spectateur, notamment via la jam du lundi qui rencontre vraiment un vif succès qui existe depuis, je crois, quasi les débuts de l'aventure tricoterie et qui fait venir plus ou moins 200 personnes tous les lundis. Il y a les soirées de la Java du vendredi aussi qui amènent... un DJ, donc ce sont des soirées qui vont de 19h à 3h du matin, et là qui amènent également énormément de monde et de tout âge, de toute origine. Il y a également les journées de détente comme le brunch du dimanche. Donc si vous avez envie de bruncher le dimanche, venez, hein, c'est très chouette. Et donc c'est vraiment poser un regard sur l'autre via un médium, tels que la musique, la peinture, les repas collectifs, parce que nous avons aussi les couscous séfarades ou le yoga. Et puis, les deux des fondateurs sont vraiment tétanisés par l'isolement social. Et donc, pour eux, c'est une façon d'éviter cela, c'est de faire quelque chose avec quelqu'un pour établir une connexion. Donc, le regard se pose sur l'autre autrement. Alors, comment on a amené le projet Escapade au sein de la tricoterie? D'abord, c'est Patrick qui est venu au sein de la tricoterie. C'est lui qui a proposé le projet. Et c'était pour cette salle une manière de donner la parole et une caisse de résonance. Ça permet une mise en valeur de minorités. Et c'est un projet qui fait sens pour eux parce que ça permet la réinsertion musicale d'ex-prisonniers. Et ce sont aussi des personnes en soins psychiatriques et des personnes en centre de réhabilitation pour toxicomanie qui font la programmation de ce cycle. Donc, de toute façon, il en parlera un peu plus Patrick. Et donc ça, ici, ça se fait dans une salle, le boudoir, qui est une salle qui a été inaugurée il y a un an et demi maintenant. Donc, c'était en septembre 2022. Et donc, c'était vraiment... un bon projet pour cette salle qui a été étudiée pour que des concerts soient proposés sans être amplifiés. Je pense que je vais laisser la parole à Patrick pour plus expliquer son projet de cycle Escapade.
Ok, donc le projet Escapade, c'est... j'ai commencé à habiter à Bruxelles il y a maintenant déjà 16 ans. Et je suis venu parce que j'étais par hasard devenu directeur du Festival de Flandre. Et je voyais qu'on avait peu de public, donc il fallait agrandir le public, ça veut dire être moins flamand, parce qu'être flamand, c'est pas très vendeur à Bruxelles. Donc c'est devenu clair un festival. Puis j'étais directeur d'Ars Musica, j'ai agrandi le public, mais le conseil à l'époque disait c'est pas un public qu'on veut, c'est pas des gens savants. Et nous on est un festival de musique savant. Pour des gens savants. J'ai dit ok, je suis reparti en Russie où je vivais avant d'être belge. Enfin, je suis parti de la Belgique pour vivre en Russie et puis je suis redevenu ici. Mais je suis alors retourné en Russie, continué à habiter ici. Et après un peu de temps, je me dis mais quand même, c'est un peu con avec ce que je sais, que je ne fais rien où j'habite, dans les milieux où j'habite, où il y a des gens que je fréquente. En plus, j'habite à Molenbeek. Comment est-ce que je pourrais être utile avec ce que je sais? Et ce que je sais se limite dans le domaine de la musique classique, donc ce n'est pas très utile. On ne peut pas réparer une voiture, on ne peut pas cuisiner, ça ne sert pas à grand-chose, sauf si on pourrait prouver qu'un public pour la musique classique est beaucoup plus grand qu'on le pense. Alors, j'ai voulu faire un expériment. Cibler des gens, et ça c'est un peu con, cibler des gens où on pense qu'ils ne savent pas ce que c'est la musique classique. Où se trouvent ces gens? En prison, ce n'est pas une académie de la philosophie grecque, ou dans les asiles psychiatriques. Donc les gens qui habitent dans les lieux où on ne veut pas se trouver. Et est-ce que la musique classique pourrait aider ces gens? Est-ce que la musique pourrait susciter quelque chose de ces gens? Et au début, j'ai parachuté des concerts. C'est moi qui décidais, comme le grand Manitou, qui va jouer quoi dans les prisons. Et les gens étaient contents, non. Mais après un peu de temps, parfois je suis lent. Ça m'a pris 4 ans avant que je me suis rendu compte que je donnais un peu de massage. Donc je passe, je fais un petit massage, ils s'en sont bien, et dans 2-3 jours, on se sent mal de nouveau. Et j'ai constaté que parfois des musiques qui est qualifiées comme difficiles, il faut l'apprécier dans les prisons ou dans les asiles psychiatriques, parce que ça parle aussi des traumes, ça parle de l'angoisse, de la misère, de tristesse, des choses comme ça. Et le plus fort que c'est, le mieux ça se passait. Donc c'est pas une musique de divertissement que ces gens ont choisi. Donc j'ai mis en œuvre des trajets de 4 mois où je suis en prison, je passe une après-midi avec des détenus et je leur parle de la musique, et on écoute des choses et puis on vote sur une musique, et quand il y a une majorité de 75%, moi je suis obligé de mettre ça en œuvre. Donc pas des œuvres symphoniques, bien sûr, tous dans la musique de chambre, donc des petits ensembles. Mais s'il y a sur 10, 7,5 qui votent pour une certaine pièce d'un certain compositeur, moi je dois le mettre en œuvre. Et ça donne parfois des choses très particulières, comme des sextuors de Brahms, des sextettes de Brahms, ce qui n'est pas une musique facile. C'était voté et en asile psychiatrique, enfin pas en asile, en soins psychologiques et en prison. Ce qui était bizarre parce que c'est une musique très académique et pas facile à gérer. Bon, point. Autre paragraphe. comment est-ce que je suis arrivé à la tricoterie, c'est on faisait des concerts au conservatoire. On était là, dans un espace culturel où il y avait, dans tous les espaces culturels, il n'y avait pas grand-chose qui se passe. C'était vide. Et quand on était là ou quand on n'était pas là, ça ne faisait aucun mouvement. On se sentait entré dans une forme de prison, des espaces vides, neutres. Ça sonne bien, il y a un bon piano, mais il n'y a pas un public, il n'y a rien. Et on ne pouvait pas amener un public là-bas. Et donc le conservatoire devait se refaire. Il y a un meilleur mot comme ça en français, refaire les choses. C'était en train de s'écrouler. Donc on va le
rénover,
reconstruire, oui. Il nous fallait une nouvelle salle. Donc je commençais à téléphoner, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît une salle à Bruxelles avec un piano? Et un Italien me dit, oh, la tricoterie, ils ont acheté un piano, il y a une nouvelle salle. Donc je téléphone et je parle du projet, conseil escapade. Et de plus que je parlais, je sentais une sympathie ou une attention qui était en train de disparaître, comme je parlais des concerts. Et puis j'utilise le mot détenu et dis, ah, détenu, ah, pouf, il y avait un intérêt. Donc j'ai visité la salle, j'ai rencontré les gens, et je trouvais tout le monde sympathique. Je suis allé aux fêtes, il y avait beaucoup de monde. Et puis j'ai commencé à organiser des concerts dans cet lieu qui est très, très petit, un peu shakespearien, si on peut dire, très, très haut. Très bon contact entre musiciens et public. Et pour le moment, ça se passe très, très bien.
Merci beaucoup, Patrick. Donatienne, dans quel lieu tu t'investis actuellement? Quels sont les espaces où tu as voulu stimuler l'écriture? Je sais qu'il y a un point commun avec Patrick. Tu pourras nous en dire plus, s'il te plaît?
Oui, alors cette expérience-là, c'était en 2015 à peu près, je pense. C'était à l'époque où j'étais enseignante en promotion sociale au cours Erasme. Donc c'est cours de promotion sociale Erasme à Anderlecht, c'est près de Saint-Guidon. Et donc ce centre de promotion sociale avait à l'époque pour objectif de transmettre donc la langue française dans différents lieux de Bruxelles, pas que au sein de l'école elle-même. Et il y avait donc, entre autres, là où moi je donnais cours avec une de mes collègues, la prison de Forêt. Et moi j'étais à la prison de Berkendal. Donc il faut savoir que la prison de Berkendal, c'est une prison uniquement pour femmes. Et donc j'ai dispensé là une matinée de cours de français par semaine à un groupe à peu près d'une dizaine de personnes, d'une dizaine de femmes. Et bien vite, je me suis aperçue qu'elles n'avaient nullement besoin d'apprendre la langue française. Pour la plupart, elles la maîtrisaient déjà assez bien pour se débrouiller, mais elles étaient passionnées, l'une par le dessin, l'autre par la littérature, l'autre par la musique. Elles avaient chacune des centres d'intérêt assez particuliers, et on a commencé à discuter ensemble de ce qu'elles voudraient vraiment durant ces matinées, et on a instauré un atelier d'écriture donc collectif. Et chaque semaine, elles arrivaient avec un texte ou deux. On fixait parfois des thématiques ensemble, mais pas forcément. On parlait beaucoup de l'actualité, parce que malgré tout, elles avaient quand même accès à la télévision et à la radio, donc elles étaient au courant de tout ce qui se passait à Bruxelles, en Belgique et à l'international. Et c'est vrai que je me suis vite aperçue que ça créait une atmosphère vraiment très particulière, de confiance entre elles et de elles à moi surtout. C'était ça le plus important. Et on a fait ça pendant à peu près un an. On a voulu prolonger le projet. Malheureusement, à la fin de l'année, il y a eu des gros problèmes au niveau budgétaire, au niveau du ministère de la Justice. Et toutes les activités qui étaient animées dans cette prison ont dû cesser. Et donc, elles se sont retrouvées du jour au lendemain, mais vraiment du jour au lendemain, sans aucune visite extérieure. Mais ce que j'ai proposé, parce que j'étais donc salariée, j'étais enseignante, mais on était liée par une ASBL qui est située à Forêt, qui s'occupe entre autres des familles des détenus. Et donc, par ce biais-là, j'ai continué à pouvoir faire des propositions d'écriture qu'elles recevaient. Mais bon, voilà, après, on n'a pas pu garder le contact, et j'avoue que je le regrette fortement, parce que ça aurait été vraiment un projet que j'aurais voulu développer davantage. Et je faisais ça aussi en collaboration avec une bénévole de la prison, qui, elle, animait une chorale. Et donc, voilà, on avait des projets en commun, mais malheureusement, on n'avait pas pu aboutir. Mais ça a été une année absolument magique pour moi. Chaque jeudi matin, c'était un peu une bouffée d'oxygène, alors qu'on était enfermés, on était dans un lieu clos. Mais c'était vraiment, voilà, ça leur a, je crois, apporté énormément, mais moi, ça m'a apporté encore plus, je pense.
Merci, Donatienne. Donc, Isabelle, tu peux parler des espaces que tu investis avec les collectifs?
Oui, l'association, elle a été créée en 2012 et c'était au départ vraiment la volonté de rassembler toute personne qui avait envie d'écrire et peu importe son expérience, voilà, c'est vraiment ouvert à tous et à toutes. Et donc en 2012, on a eu notamment un collectif, deux collectifs en fait qui ont commencé parallèlement, dont le collectif de la ligne 10, auquel Sylvie a participé dès l'aube, donc de Scriptalinia. Et donc voilà, notre objet, c'est notamment de démystifier l'écriture et de permettre voilà, à un groupe de prendre une place politique dans l'espace public, en fait, politique au sens large du terme. Et donc, assez vite, il y a eu une réflexion sur comment rendre vraiment ce projet accessible au plus grand nombre. Et donc, on a fait un premier projet en 2014 auprès d'un public d'apprenants en français langue étrangère. Et donc, voilà, c'est clairement à peu près chaque année, on fait au moins un projet avec un groupe d'apprenants en français langue étrangère. À partir de 2016 aussi, on a développé des projets avec les enfants. Le tout premier, c'était un projet qui alliait en fait une classe de quatrième primaire à Forêt, des habitants forestois et la bibliothèque de Forêt, la Biblif. Et donc, voilà, à partir de là aussi, on a développé vraiment cette accessibilité de l'écriture et de l'écriture artistique et la compréhension en fait de ce qu'est un livre et comment se construit un livre en le faisant, en co-construisant aussi. Avec toujours en amont, je regarde Patrick, mais donc la question dans ces publics captifs, la vérification que le public a envie de réaliser un tel projet collectif et citoyen de réalisation d'un recueil en fait de textes. Et donc si le groupe ne le souhaite pas, alors on développe des activités d'écriture pour vraiment toujours démystifier l'écriture, mais sans voilà, aboutissement concret. Et ça arrive parfois qu'un groupe dise non, on préfère faire des activités ponctuelles et comme ça, ça lève éventuellement la pression. Ça a été d'ailleurs le cas pour un groupe qui rassemble en fait des adultes qui sont en psychiatrie ou qui sortent de psychiatrie, donc qui sont voilà, dans des espaces qui s'appellent des lieux de lien à Bruxelles, donc notamment au Club 55. On a développé un projet à l'espace 51, ça c'était à Schaerbeek. Club 55, c'est à Anderlecht. Et pour l'instant, voilà, on est fort en lien à Oudergem avec Babelzine. Donc ce public-là est aussi un public qu'on a envie de toucher pour vraiment travailler sur l'accessibilité de l'écriture. Et puis aussi la réflexion sur comment on décide ensemble, parce que c'est aussi l'idée d'être dans une dynamique participative, vraiment. Voilà, c'est clair que il y a une réflexion sur le fait de toucher aussi des personnes qui sont en prison, donc voilà, mais, voilà à suivre. Et puis alors il y a la question aussi des personnes qui sont parfois c'est considéré comme une prison mais en maison de retraite, et donc ça c'est Donatienne qui va lancer ça avec Charline bientôt. Et voilà, encore d'autres publics, c'est vraiment essayer de toucher le plus grand nombre, se faire connaître pour vraiment, oui, lever un peu les blocages et se questionner sur un sujet de société qui va être choisi par le groupe.
On va passer à la diffusion du premier extrait qui sera l'Ave Maria de Gounod Bach, interprété par Madame Evania Kass. peux nous parler de ce morceau et un peu, donc il n'y a pas si longtemps, tu as coupé ton jubilé, tu peux en parler s'il te plaît.
Éventuellement, comme je suis arrivée ici en Belgique en 89, j'ai fêté ici cette concert de jubilé que depuis 35 ans que j'ai quitté mon pays natal. Et je suis arrivée à l'Académie d'Ixelles en 1994. Une fois que j'ai quasi terminé toutes mes études de chant qui étaient imaginables à Bruxelles. J'ai fêté en fait les 30 ans de ma carrière en tant que professeur de chant art lyrique et musique de chant vocal et 35 ans que j'ai quitté mon pays. L'Ave Maria de Gounod, il faut savoir, c'est l'Ave Maria préférée de ma mère, en même temps le mien aussi. Et heureusement, depuis pas mal d'années que je chante, et souvent j'utilise cette air-là, éventuellement chanter dans les églises. Souvent j'ai chanté pour le mariage, comme par exemple sur le mariage de Serge DeVos. En même temps, j'ai utilisé déjà beaucoup aussi pour les enterrements. D'ailleurs, on a mis comme enregistrement à l'enterrement de ma maman et d'autres membres de famille qui sont décédés depuis en Hongrie. C'était plus facile parce que je pouvais envoyer cet enregistrement-là, et malgré que je ne pouvais pas être présent physiquement, au moins par la voix, j'étais présent à leur enterrement en fait.
Qu'est-ce qui t'a conduit à l'enseignement, sachant que l'opéra, c'est quand même quelque chose de très élitiste, et sachant que tu préparais le concours Reine-Elisabeth
En fait, j'ai participé au concours Reine-Elisabeth en 1996. Et éventuellement, au début, quand j'ai commencé mes études de chant, déjà à l'âge de 13 ans, à Debrecen, dans ma ville natale, j'ai rêvé de faire une carrière d'artiste lyrique et cantatrice. Je suis arrivée ici, je me disais pourquoi pas, éventuellement je suis en bon chemin avec le concours aussi, parce que j'ai préparé pendant 2 ans ce concours-là, c'était un concours assez large. En même temps, en préparation, j'ai reçu une magnifique bourse de la Belgique pour préparer le concours, il faut savoir. Et je me disais dans ma tête, alors c'est lancé, ça serait super, je vais pouvoir faire une carrière en tant que soliste. Mais à l'époque, quand j'étais au conservatoire, Jules Bastin m'a déjà dit, n'oublie pas, si tu veux fonder une famille, ça vaut le coup que tu aies une poste fixe en Belgique. Et à l'époque, c'était plutôt avoir une poste à l'Académie de musique pour avoir une rentrée d'argent sûre, sur quoi on pouvait éventuellement baser et fonder une famille. Donc, j'ai écouté sa parole. En même temps, il m'a dit, de toute façon, tu peux toujours chanter à gauche, à droite, pas de souci, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, parce que j'ai travaillé avec beaucoup de bureaux d'événements, et je suis allée dans pas mal de pays, dans pas mal de villes, chanter. Et juste avant la Reine Elisabeth, malheureusement, j'ai eu que mon fils a eu un gros accident de voiture, il est devenu handicapé moteur. Et finalement, ça m'a freiné parce que moi, je me disais, je me vois mal laisser un enfant aux soins intensifs et balader à gauche, à droite, chanter partout dans le monde et ne pas être présent pour son rétablissement. T'as dit, j'ai décidé à ce moment-là plutôt, OK, j'avais déjà ma place de l'académie ici en 94. Et je lui ai dit, OK, alors je fais le choix d'abord investir dans le rôle de prof. Et si les possibilités là pour quand même aller chanter à gauche, à droite, tout en étant présent, continuer à être présent pour mon fils, alors je le fais. Et c'est comme ça que je faisais une carrière soliste parallèlement de ma carrière de professeur.
Merci Eva. Donc le thème de l'émission, c'est l'accessibilité et les problèmes qui en découlent, l'accessibilité que ce soit au point de vue financier ou physique. Donc Serge, tu peux parler un peu de l'accessibilité de l'académie, à qui est ouverte l'académie et quel est le rôle de l'académie en fin de compte pour lutter contre les problèmes socioculturels.
Alors effectivement, déjà dans la charte de l'enseignement, que ce soit ici à Ixelles, dans le PO, ou je pense pour d'ailleurs toutes les académies, se calquant sur la charte des droits de l'enfant, le premier objectif, c'est l'épanouissement de l'élève, déjà. Et à ce niveau-là, c'est de tous les élèves. C'est-à-dire qu'évidemment, l'académie n'est pas un lieu élitiste, donc tout le monde a sa place en académie. C'est ouvert à strictement tout le monde, et je vais même dire qu'au niveau de l'accessibilité, c'est assez rare pour être souligné en Belgique peut-être. Il y a la gratuité pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc tous les enfants peuvent venir à l'académie, c'est totalement gratuit. Et il y a des tas de cas d'exonération aussi du droit d'inscription. Par exemple, si on est chômeur, c'est gratuit. Si on est professeur, c'est gratuit pour pouvoir se former également dans le cadre d'une formation continue, etc., etc. Bon, je n'ai pas... Et puis la liste serait un petit peu rébarbative. Mais en tout cas, il y a beaucoup de possibilités de ne... si ce n'est d'avoir l'exonération, de payer moins. Puisque pour les étudiants jusqu'à 18 ans, ce n'est même pas 100 euros pour toute l'année. Voilà. Et il faut savoir qu'une fois qu'on est inscrit en académie, on peut prendre autant de cours qu'on veut. Bon, on voit ça beaucoup plus dans les arts plastiques. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, on peut prendre 10 cours si on a envie dans 5 académies, 6 académies, 7 académies différentes en ne payant qu'une seule fois puisque le droit d'inscription va à la communauté française. Et donc, ça permet une grande, grande accessibilité de nos cours pour le plus grand nombre, je dirais. D'où le fait qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de succès ici en académie puisque, je le répète, on a quand même un peu plus de 1000 élèves ici à l'Académie d'Ixelles. Les cours sont donnés dans cette optique-là. Le but n'est pas de former, moi je parle pour ma chapelle si je puis dire, n'est pas de former des comédiens, même si on le fait. Mais bon, c'est une infime partie, mais on a quand même des gens, à titre d'exemple, une élève qui a été à la Mostra de Venise, rien que ça, ou qui a été nommée au César en France. Mais bon, c'est évidemment une toute petite minorité. Mais dans la grande majorité, ce sont vraiment des gens qui viennent pour s'épanouir et pour avoir cet accès à la culture. Et personnellement, depuis que j'ai commencé à enseigner, un de mes petits dadas, si je puis dire, c'est l'accessibilité notamment à la culture belge. Puisque c'est vrai que je travaille toujours des auteurs belges avec mes élèves. Et lorsque je leur parle des auteurs belges, je dis... Des auteurs belges, mais enfin, il y en a. Je dis, ben oui, allez voir, faites des recherches et vous allez voir que notre littérature n'a absolument rien à envier à la littérature française. Elle est d'une force incroyable, une force d'écriture et d'évocation absolument incroyable. Et donc ça, c'est un de mes buts aussi depuis que j'enseigne, c'est de leur faire percevoir le champ culturel belge aussi. Évidemment, surtout avec les qualifications. Il faut savoir qu'ici en académie, les deux premières années, on ne peut pas travailler de texte, sauf en déclamation, donc là on peut. Mais en théâtre, on ne peut pas travailler de texte, on fait ce qu'on appelle du jeu dramatique. Et à partir de la troisième année, là on commence à travailler du texte. Et par exemple, cette année-ci, bah, ils ont fait un montage de textes d'auteurs belges en première partie d'année. Et ma méthode, c'est que je leur demande de m'apporter des scènes qu'ils auraient envie de travailler. Donc j'essaye de susciter également la recherche, ce qui me permet aussi pour moi de découvrir des tas de choses, parce qu'évidemment je ne connais pas tout, bien entendu, et donc c'est aussi très agréable en tant que professeur de découvrir de belles écritures. Alors bon, j'ai un exemple, c'est pas une écriture extraordinaire, mais c'est quand même assez incroyable. J'ai découvert cette année-ci un élève qui m'a apporté la seule pièce qu'Hergé a écrite, qui est une pièce avec évidemment Tintin en personnage principal, donc qui est assez amusante. C'est un peu, ça fait un petit peu penser à Hercule Poirot belge, puisque c'est une enquête et on interroge les différents protagonistes. Voilà, c'est une curiosité, mais qui est quand même intéressante à découvrir. En tout cas, moi, c'est mon moteur, c'est vraiment la découverte à travers l'accessibilité, et pour moi et pour les élèves. Voilà.
Merci beaucoup, Serge. Alors, quels sont les moteurs qui vous poussent à vous adresser à des personnes éloignées de la culture ou de l'expression artistique en général ? Vous pouvez tous y répondre. Ici, on n'est vraiment pas dans l'enseignement élitiste à l'académie, comme tu le disais. Mais comme pour Sylvie et Patrick, le projet Escapade ou la prison, Eva a aussi fait des maisons de repos, des concerts en maisons de repos. Pourquoi faire le choix de l'académie ou... Vous n'allez pas spécialement avoir dans vos plus grands étudiants des élèves qui ont déjà un certain niveau, qui ont eu accès auparavant à la culture.
Moi, comme j'adore chanter, j'adore enseigner, justement peut-être par ma passion que j'ai envie de partager. Et en général, justement, en revenant à l'opéra qui est, soi-disant, de toujours élitiste, mais quand je commence à chanter des airs d'opéra dans ma classe, alors éventuellement on reste à bouche bée que « Ah bon, c'est joli, ah !» Et quelque part, ça devient un peu plus proche d'eux. C'est-à-dire, si à travers de ma passion, ma voix, je peux tirer quelqu'un dans le filet d'opéra, c'est déjà gagné, je trouve. Et éventuellement, pourquoi pas, en Hongrie, mes anciens camarades de l'école primaire et le secondaire, ils sont vus tous la première fois à l'opéra grâce à moi parce que j'amenais mes collègues à l'opéra. Et finalement, j'ai déjà organisé ça aussi, c'est à l'académie, justement en visite pour regarder l'intérieur, la structure de la monnaie, et avec les élèves aussi. Moi, je pense que, comme je le dis, j'adore toujours chanter. Si j'arrive à faire en sorte que ça devienne plus proche de cet style qu'on dirait, mon Dieu, on ne comprend pas, et c'est quoi ça? On a l'impression que l'opéra, on ne comprend pas quand on ne connaît pas l'histoire. Mais quand on explique dans le détail, ils disent « Ah bon, c'est ça? Ah oui, c'est... » Tout est possible, mais moi, ça me fait plaisir que j'arrive à débloquer quelque chose qu'on dit toujours, c'est impossible, c'est trop lointain. Non, ça dépend comment on regarde. Et quand on a fait le spectacle de Diva avec Diana Gonestin, ma collègue, justement, on a démystifié l'opéra.
Justement, c'est ce qui pousse certains enseignants ici à l'académie, les profs de solfège, à t'envoyer des cas assez spéciaux. Est-ce que tu peux en parler ? T'es un peu la Sainte Rita de l'académie pour le chant, hein, faut le dire.
Oui, j'ai déjà entendu ça. Soit disant, j'ai une baguette magique, absolument faux. Je n'ai pas de baguette magique. Je ne suis pas Joséphine Ange Gardien. J'aimerais bien être, mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, ce qu'il y a, c'est souvent, éventuellement, mes collègues de professeurs de formation musicale m'envoient des élèves quand ils disent oui, mais ils n'arrivent pas à chanter, ils chantent faux, ça ne va pas, il n'y a pas de sens de rythme, tu peux écouter. Et alors, parfois, ça arrive, notamment mon pauvre élève, il est tout simplement en période de mue, peut-être il faut laisser tranquille tout court. Parce que de toute façon, il ne peut rien faire. Il faut attendre que la nature fasse le reste. Et après un an, il pouvait rechanter comme c'était avant. Alors, ça nous est arrivé aussi, éventuellement, certains adolescents ou enfants qui chantent faux. Éventuellement, on va essayer de découvrir pour quelles raisons, à quel point les fausses notes sont là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais écouté la musique et l'oreille n'est pas du tout habituée à écouter la musique, peut-être ne pas entendre les intervalles, ne pas entendre les autour de notes, ou éventuellement un problème de technique vocale, ou des problèmes de l'oreille, ou problème de projection de son et de souffle. Et à ce moment-là, quand j'arrive à trouver le problème, qu'on dit, oui, une baguette magique, non, tout simplement, je fais une analyse, je vais essayer de donner des explications et les exercices, comment ils peuvent éventuellement trouver cette justesse-là, ou parfois faire revenir plusieurs fois dans ma classe, tant qu'ils ont compris ce qu'ils doivent faire pour pouvoir finalement récupérer la justesse et le problème de rythme.
Merci Eva. Alors Serge, dans tes cours, c'est quoi ton cheval de bataille pour arriver à motiver les élèves que tu sens un peu plus faibles?
Ben, déjà, il y a la passion. Je veux dire, sans passion, on ne fait rien. Je disais récemment à quelqu'un que moi, je travaille avec cœur. Sinon, ça ne sert à rien. Donc déjà, si on est passionné par ce qu'on veut transmettre, c'est déjà une bonne clé. Maintenant, pour moi, je dis toujours, je ne travaille pas avec... Eva parlait de talent tout à l'heure. Je crois que Brel disait le talent, je ne sais pas ce que c'est, ça ne veut rien dire, c'est le travail, mais c'est vraiment ça ici. Donc peu m'importe alors je vais utiliser un mot avec de très gros guillemets, le niveau, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, bah, chacun est différent évidemment, bon, c'est un peu un lieu commun, mais ce que je veux dire c'est qu'on prend la personne telle qu'elle est, avec ses qualités, ses défauts, et on l'accompagne dans un chemin de vie. Je crois que c'est ça, l'académie, c'est accompagner dans un chemin de vie, puisque l'élève va s'épanouir et quelque part se former, mais moi aussi à travers ça d'ailleurs. Et si c'est une liaison, une relation partagée, bah, généralement ça se passe bien, parce qu'il n'y a aucune volonté d'intrusion dans la personnalité de l'élève qui est en face de moi. Je suis toujours très respectueux de la personnalité de l'élève. Et... mon but, c'est de le pousser le plus que je pourrais, mais en sachant qu'on ne va pas en faire un comédien professionnel, parce que ce n'est pas le but. Le but, comme je l'ai dit, c'est la découverte et de s'épanouir véritablement. Donc, ce que l'élève va produire, bah, ça va être le résultat surtout de son travail. Donc ça, c'est une vertu cardinale quand même. Je leur dis toujours que bah, s'ils ne travaillent pas un petit peu, ça va être compliqué. Et ça, c'est important, ça permet de se dépasser aussi. Et c'est ça, je dis toujours aux élèves, il n'y a pas de résultat à obtenir, ça n'existe pas. Je dis, allez le plus à fond possible. Si vous donnez un maximum, alors c'est gagné. D'ailleurs, la seule chose que je leur dis lorsqu'ils passent en prestation, alors c'est vrai que normalement c'est un examen, mais je leur dis examen, moi je ne sais pas ce que c'est, ça n'existe pas. Le terme évaluation, non. C'est un spectacle puisqu'on fait venir du public, et ben amusez-vous. Et si vous vous amusez, le public va s'amuser et donner à fond, c'est tout ce que je vous demande. Donc, à partir du moment où il y a cette démarche de la part de l'élève, il y a du respect de ma part. Et je pense qu'alors, du coup, ça se passe très bien. J'insiste vraiment sur cette relation duale où je leur dis, mais moi, je vais apprendre autant que vous. Ce n'est pas parce que j'ai fait le conservatoire que j'ai la science infuse et que je regarde du haut de ma tour d'ivoire. Ça n'a rien à voir. On est tous au-dessus d'une tour d'ivoire et on va tous descendre de cette tour et essayer de faire quelque chose ensemble. Je crois que le terme d'ensemble est très important en art de la parole, en tout cas certainement en théâtre, même s'il est important dans d'autres disciplines des arts de la parole également.
Merci beaucoup Serge. Et Donatienne, tu peux un peu expliquer ton parcours. Donc, tu as dû adapter tes méthodes à chaque public.
En fait, ma passion pour la langue française date de quand j'étais toute petite. Donc, je crois que j'ai su lire avant même de rentrer en primaire. J'écrivais comme un pied, mais j'adorais écrire des histoires. Et j'adorais transmettre ces histoires. C'est la passion qui m'a toujours guidée. Je m'étais toujours dit que je ne serais jamais prof, parce que je ne me voyais absolument pas être capable de gérer une classe d'adolescents de 25-30 élèves, ayant été moi-même une ado, n'aimant pas l'école. Je ne me voyais pas moi-même être prof. Et en fait, à l'UCL, il y avait une option FLE qu'on pouvait prendre en parallèle de notre cursus. Donc FLE, c'est français langue étrangère, où il y avait des cours d'interculturalité, de cohésion sociale, de dialogue interculturel, d'enseignement pour les enfants issus de l'immigration, etc. Et ça m'a passionnée. Littéralement, j'ai été prise aux tripes par ces cours, par les profs, par les maîtres de stage, les écoles dans lesquelles j'ai été. Je me suis sentie comme chez moi. Et la première expérience vraiment, on va dire, de faire rentrer la culture à l'école pour des élèves qui n'avaient pas forcément accès, c'était évidemment pour les primo-arrivants et c'était au Collège Roi-Baudouin. À l'époque, j'avais 24 ans et j'ai voulu en faire ma vie. Enfin, je me suis dit, ça, c'est mon truc à moi. En sortant d'agrégation, donc j'ai tout de suite été en promotion sociale. Donc là, c'est un public adulte. Et on s'est vite aperçu avec mes collègues que, au-delà en fait, de la langue française, donc la plupart de nos élèves étaient analphabètes, donc ne savaient ni lire ni écrire, et donc aucun accès à la culture, hein, même bruxelloise, même de leur quartier, parce qu'il n'y a rien à faire, la lecture est quelque chose d'essentiel et c'est un barrage à énormément d'aspects dans la vie quotidienne, et entre autres pour avoir un accès à la culture. Et donc on a mis en place une fois par mois ce qu'on appelle l'Alphaciné. C'est une initiative de lire et écrire, donc une association d'alphabétisation à Bruxelles où on emmène nos élèves au cinéma. Donc ça a été une première expérience de donc, contact entre la culture francophone et nos étudiants. Et puis donc tout au long de mon parcours de prof, j'ai toujours essayé de faire entrer la musique, le théâtre et le cinéma dans nos classes. Et aussi beaucoup via les jeux de société. Donc moi, je m'appuie beaucoup sur la méthode Freinet-Montessori, qui sont vraiment deux méthodes d'enseignement très ludiques, où tous les aspects, on va dire, des arts peuvent entrer en jeu. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a passionnée et qui me passionne toujours. Donc j'ai travaillé un peu avec tous les publics, hein, les adultes, les enfants, les tout-petits, les ados. Et puis en 2018, en fait, j'ai intégré une nouvelle ASBL où j'ai travaillé et où j'ai découvert Script Alinéa parce qu'une de mes collègues avait un collectif d'écrit en FLE. Et suite à son départ, j'ai dû reprendre ce collectif et c'est là où j'ai découvert le projet. Maintenant, je fais partie donc, du collectif Les Encres d'Elle qui est situé à Scarbeck. Et donc là, on a un futur projet pour bientôt.
Merci, Donatienne. On va passer à la diffusion du deuxième extrait. Donc, Suor Angelica de Puccini, interprété toujours par Eva Niakas. Nous voici de retour dans notre studio mobile à l'Académie d'Ixelles. Donc Eva, peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi d'inclure ce morceau dans la programmation, s'il te plaît ?
En fait, il faut savoir que Giacomo Puccini est décédé à Ixelles il y a 100 ans. Ça va être le 29 novembre où on va fêter cet anniversaire dans la salle Marcellis avec le chant choral, parce que j'ai demandé aussi à mon collègue de participer avec le choral de bouche fermée de Madame Butterfly. Éventuellement, il voulait aussi présenter le choral autour de le fameux grand air de Nessun Dorma de Turandot, le dernier opéra que Puccini a composé. Moi, je vais chanter plusieurs extraits comme le Madame Butterfly, je vais chanter des extraits de la Bohème, le Janis Kiki. Et éventuellement, ici, j'ai choisi le Sœur Angélique. Probablement, je vais mettre cette air-là aussi dans le programme. Parce que cette ère-là, c'était déjà mise dans le programme de mon diplôme de chant en Hongrie en 1989. Plus tard, j'ai rechanté ici aussi. Et il faut savoir que comme c'est un opéra où, avant l'ère d'Angelica, elle apprend de la part de princesse que son fils vient de décéder. Il faut savoir que mon fils est décédé aussi de mort subite à l'âge de 3 mois, le premier enfant. Et une fois que j'ai vécu ce drame-là, j'ai chanté tout à fait d'une autre manière cette air-là. Et cet enregistrement que vous entendez finalement, c'était déjà enregistré bel et bien après le décès de mon fils.
Merci Eva. Alors Patrick, qu'est-ce qui t'a motivé toi à choisir ce public, à te diriger vers deux publics particulièrement fragilisés?
Quand j'ai débarqué en Belgique, en Russie, il n'y a jamais le problème d'un public. Le public est, dès qu'on offre une certaine qualité, il y a un public. Je voyais en Belgique, ce n'est pas le cas. J'ai commencé à me poser la question pourquoi, et j'ai essayé d'y répondre en disant que la culture, ce n'est pas la culture. La culture, c'est une petite partie de ce qu'on appelle entertainment. Qu'est-ce qu'on fait avec son temps? On va au restaurant, on va au cinéma, on va au foot, on reste à la maison, on va en concert. Pour aller à un concert, il faut d'abord, ou à la culture, il faut d'abord que les gens comprennent ce que dit la culture. C'est quand on voit les programmes ou les textes qui doivent vendre les produits, il faut déjà avoir un diplôme universitaire pour les comprendre. Donc, j'ai essayé de rendre les choses divertissantes, simples, sans toucher à la qualité d'un concert. Et ça marche. Mais cette approche crée... Pas tout le monde est content avec cette approche, parce que la culture, c'est du sérieux. Mais c'est pas, il n'y a pas de loi. Donc, en étant frustrant, j'essaye de prouver que le public est plus grand qu'on est pour qu'on sait survivre. Chaque année, de main en main, il y a du public pour la musique classique. Je ne parle que de ça. Donc on peut rester encore 10 ans, il y a encore moins de public. Ça diminue vraiment, vraiment, vraiment. Avec Corona, il y a beaucoup de notre public qui est mort. Il y a l'âge et un jeune public ne se voit pas. C'est des jeunes, c'est des vieux blancs, des vieux gris communs. Et j'aimerais voir des gens plus jeunes et en exposant ce que nous on aime aux gens qui ne connaissent pas ce qu'on aime, il y a une friction qui fait naître une autre chose. Quand il y a une bagarre d'idées dans une prison, on n'est pas content de ce que je propose, je mets du Bach et immédiatement tout le monde est content. C'est mystérieux, pourquoi Bach, ça rend les gens contents qui ne connaissent rien de la musique, il fait des choses que maintenant on ne comprend pas encore. Et ça touche à tout le monde. Et quand les gens qui ne connaissent pas la musique classique viennent à un bon concert, c'est vendu. Et le pas pour aller à un concert, c'est très difficile, pareil. Donc, en travaillant avec des gens qui ne connaissent pas la culture, qui ne sont pas habitués à faire ça, je découvre de nouvelles formules. Par exemple, tout ce qui est important pour le public qui va déjà, des grands noms, des choses qu'ils connaissent, pour eux, ça ne veut rien dire puisqu'ils ne connaissent rien. Mais ils ont des oreilles très propres. Ils savent reconnaître immédiatement ce qui est bon, ce qui n'est pas aussi bon. Il y a des stars qui jouent comme des cloches. Mais comme ce sont des stars, ça vend 2000 tickets au bazar. Et c'est incompréhensible parce que tout le monde, si je mets un prisonnier dedans, il va dire qu'est-ce que je fous ici. C'est quelqu'un qui joue avec beaucoup de passion, qui joue avec beaucoup d'amour, beaucoup. Ils vont apprécier ça. Et alors, on a vendu quelqu'un, on a vendu un ticket pour quelqu'un pour entrer dans le paradis qui est la musique classique, la culture. Et donc, en parlant, par exemple, en prison une fois, j'ai eu une conversation avec un Arménien-Polonais. Un Arménien-Polonais, c'est, imaginez, quelqu'un très très grand, quelqu'un qui fait du cage fighting, avec des dents en or, qui me dit avec un accent, Patrick, tu as l'air d'être quelqu'un d'intelligent, mais comment est-ce que tu peux avoir une idée aussi stupide que quelqu'un joue du piano pendant 2 heures? C'est par définition ennuyeux. Pourquoi ne pas faire qu'un violoniste entre et il joue pendant 10 minutes avec le pianiste? Ça change déjà un peu. Je dis, c'est pas bête. Et on commence à expérimenter avec ça dans les concerts qu'eux font. Maintenant, on fait toujours des concerts avec des différents musiciens qui jouent sur différents instruments. Et il y a toujours quelque chose qui se passe. Par exemple, ils ont eu l'idée de faire un concert de musique de danse, des valses de Chopin, des rhapsodies de Brahms. Et il y a quelqu'un qui danse dans un concert de musique classique. Et maintenant, on est en train de faire sur le Saint-Valentin, on fait toujours quelque chose avec baroque et amour. On va faire des chansons d'amour baroque avec des gens qui dansent de nouveau. Donc, c'est des choses qu'eux m'apportent et que je vole ces idées pour les mettre en fonction en Russie et en Chine où je fais aussi des choses.
Merci beaucoup, Patrick. Tu veux ajouter quelque chose, Sylvie?
Ben, moi, ce qui m'attire dans cette approche-là d'aller vers un public soi-disant fragilisé, c'est vraiment montrer qu'il y a un point commun qui est l'humanité entre nous, hein, peu importe le niveau social d'où on vient, peu importe les origines. On a ce point commun qui est l'humanité. Et si je prends l'exemple de la tricoterie, ici, il faut savoir que deux des fondateurs sont aussi comédiens, sont aussi artistes. Et le but, c'est non seulement de faire venir des professionnels, comme on dit, de montrer, de raconter des choses, de montrer la vie, mais aussi d'échanger avec ce public qui non seulement est un public du quartier qui est le public de Saint-Gilles, du bas de Saint-Gilles, mais aussi un public qui peut venir d'ailleurs de Bruxelles. Et il y a toujours un bord de scène qui se fait. Et donc on a un échange entre des professionnels et soi-disant les personnes qui ne connaissent rien, mais on parle de la vie, on parle des choses que tout le monde vit. Et au final, donc, on se rend compte que tout le monde comprend l'art, tout le monde est artiste d'une certaine manière. Il y a non seulement ça, mais il y a aussi à la tricoterie des événements où vous avez des professionnels et des amateurs qui se rencontrent, comme par exemple je parlais tout à l'heure des scènes ouvertes et de la jam session. Eh bien, il y a c'est à la fois un tremplin pour des artistes du quartier. C'est aussi la possibilité pour des artistes amateurs qui viennent peut-être des académies aussi, et de se confronter à un public, de se confronter à un regard et d'échanger ensemble, d'échanger entre pros, d'échanger entre pros et amateurs. Et ces rencontres sont suivies, donc les scènes ouvertes sont suivies par des jam sessions. Et là, vous avez naturellement des gens qui se mettent ensemble, qui se rencontrent ce soir-là et qui se mettent ensemble, peu importe le niveau, peu importe s'ils ont fait 10 ans de conservatoire ou s'ils sont autodidactes. Et ça match, ça fonctionne. Donc ça prouve bien que tout le monde peut faire de la culture et il n'y a aucune raison de faire une distinction entre un amateur ou quelqu'un qui joue pour le plaisir et une autre personne qui a envie d'en faire son métier. Moi, comme je dis toujours, la différence, c'est que d'un côté, il y a quelqu'un qui veut en vivre, qui veut gagner de l'argent avec ça. Et de l'autre côté, il y a les passionnés, mais qui ont d'autres métiers à côté. Mais ça n'empêche pas de pouvoir aussi faire de la culture et de rencontrer les personnes dont c'est le métier. Et donc, ces rencontres-là, c'est vraiment merveilleux parce que c'est, comme je le disais au début de mon intervention, c'est la rencontre d'humains, tout simplement.
Merci Sylvie. Donc Donatienne, comme tu nous l'as dit, tu as une expérience dans l'enseignement du FLE. À part la barrière linguistique, quels étaient les problèmes pour faire accéder tes apprenants au monde culturel ?
Alors je dirais qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Effectivement, bon, d'abord il y a le problème de la langue. Donc comme je le disais tout à l'heure aussi, le problème de la lecture, parce que dans notre société, tout passe beaucoup par l'écrit. Et donc, c'est quand même un frein immense quand soit on ne connaît pas notre alphabet latin, on a appris une langue, mais avec un alphabet différent, soit tout simplement on ne sait pas lire ni écrire dans notre alphabet, ou le français, ou une autre langue. Ensuite, le deuxième critère, c'est que ça peut paraître étrange, mais beaucoup de personnes dans nos groupes sont persuadées que parce que elles sont, alors je vais mettre très fort des guillemets, considérées comme un peu en marge ou hors champ. Elles n'ont pas accès à ça parce qu'on les regarderait bizarre si elles vont, je ne sais pas moi, au cinéma, au théâtre, au concert, etc. Ou même dans un musée, dans une bibliothèque. Je vais donner un exemple tout simple. Beaucoup de nos étudiants, dans une des ASBL où j'ai travaillé à Saint-Josse, pensaient que la bibliothèque était payante. Ils pensaient que pour rentrer dans une bibliothèque, il fallait payer. Bon, il y a donc l'aspect économique, bien sûr, socio-économique, qui rentre en jeu. Mais il y a beaucoup de fausses croyances, en fait, qui montrent à quel point on a mis des barrières entre ce public-là, enfin, ces groupes de personnes-là, et la culture en général, donc l'accès, que ce soit à la musique, au théâtre, à la lecture, au spectacle, enfin, voilà, à l'écriture, même à l'écriture créative. Alors ce sont des vraies barrières, il y en a certaines qui entre guillemets sont fausses, mais le but vraiment dans les formations qu'on donnait, c'était de les déconstruire et de montrer qu'il y avait des possibilités qui leur étaient donc accessibles à la mesure de leurs possibilités. Il faut savoir aussi que le public qu'on avait en FLE, pas dans tous les groupes, mais quand même dans pas mal de groupes, mais surtout en alphabétisation, c'était des personnes en grande précarité, aussi bien au niveau économique, mais surtout de la santé psychologique, et qui, pour beaucoup d'entre elles, en tout cas je parle pour les adultes, mais aussi beaucoup pour les enfants, ils ne pouvaient pas remplir les besoins de base au quotidien. Donc il y a la pyramide de Maslow, et eux, ils n'étaient même pas au niveau survie, quoi. Il y en avait, ils étaient en quête de logement, en quête de moyens pour s'alimenter. Et donc pour eux, la culture, c'était à 10 millions de kilomètres. Enfin, c'était juste pas le sujet. Et en fait, c'est vrai que dans les projets qu'on a mis en place, en fait, j'avais l'impression d'ouvrir le champ des possibles. Parce que les gens qui connaissent tout ça, ils connaissent. Et on n'a pas besoin de les aider à... Enfin, on a besoin de les aider, mais je veux dire, le développement culturel, intellectuel est là. Enfin, ils ont accès. Mais pour les personnes qui n'ont pas accès, le point vraiment sur lequel j'avais envie de travailler, c'était de leur donner un peu comme une planche qui leur permettrait de passer d'un monde à un autre. Et donc ça, pour moi, c'était vraiment un point essentiel. Et leur dire qu'ils avaient toute leur place aussi dans ce monde-là, dans le monde artistique et dans le monde du culturel bruxellois, en fait. Voilà.
Est-ce que vous avez rencontré aussi ces difficultés dans le type d'élèves que vous avez eu ou apprenants adultes, Serge et Eva? Le problème de précarité, vu que parfois il faut des livres, on a une bibliothèque à l'académie, mais on n'a pas peut-être tous les ouvrages. Comment vous faites pour essayer, quand vous comprenez qu'il y a un problème lié, par exemple, à l'économie, l'achat de livres, de partitions? Quelles sont vos parades, en fait?
On essaye de s'arranger, si je puis dire. Je vais donner un exemple. On a fait une sortie au théâtre, on est allé voir Ivenstadt. Et je me suis débrouillé pour avoir un subside de la commune. Mais si je ne l'avais pas eu, j'aurais payé de ma poche parce que je trouvais que je parlais à un élève. Il me disait « Ah, moi, je ne peux pas venir. » Je dis « Est-ce que c'est pour des raisons... » On peut parler, hein, voilà. Il n'y a pas de gêne. Est-ce que c'est pour des raisons financières? Parce que je trouverais ça vraiment trop dommage que tu... Parce que c'était un spectacle magnifique. Je trouverais ça trop dommage que tu ne puisses pas y accéder pour ces raisons-là. Il faut savoir aussi qu'ici, nous avons une ASBL qui s'appelle « Les Amis de l'Académie d'Ixelles ». Dont c'est un objectif également, c'est d'aider les personnes précarisées. Par exemple, si quelqu'un n'arrive pas à payer son droit d'inscription, ou bien on le lui avance et elle peut le payer en plusieurs fois, parce que c'est vrai que c'est payé en septembre, c'est pas toujours évident, hein, pour tout le monde, il faut bien le dire. Ou alors, si c'est vraiment pas possible, on peut même offrir le droit d'inscription si c'est pas possible. Donc, on essaie vraiment de trouver des parades, l'objectif étant qu'effectivement, cette culture doit être accessible à tous.
C'est pareil pour toi, Eva?
En fait, au niveau de partition, en général, quand on a besoin de quelque chose, je l'achète, et ou l'ASBL qui nous rembourse, ou éventuellement on a déjà eu qu'on a fait des commandes de partitions et c'est la commune qui nous a remboursé ou qui nous a acheté. Par contre, ça t'est arrivé aussi qu'une de mes collègues de professeur de formation musicale a amené par exemple toute sa classe à Flaget pour écouter un concert, et comme en général pour les élèves le concert c'est pas cher, finalement l'ASBL qui a remboursé le ticket d'entrée pour tous les élèves. Peut-être, moi, je pense qu'on essaie de faire le maximum.
Merci, Eva. Isabelle?
Oui, j'avais en fait envie d'intervenir au niveau de ce qui m'a motivée pour développer ce projet des collectifs d'écrit et de script aligné, qui est aussi la dimension de stimuler en fait les personnes à devenir actrices de culture. Tu parlais tout à l'heure, Serge, de droit des enfants, mais l'idée d'exercer le droit culturel, ça fait partie de la démocratie, ça aussi. Et donc, Donatienne parlait des représentations, et c'est vrai qu'on peut vraiment avoir des représentations qu'on est là juste, entre guillemets, pour consommer au mieux la culture, mais certainement pas pour créer soi-même. Et donc, prendre conscience qu'on peut agir par la culture. En termes d'écriture, bon, bien sûr, il faut savoir écrire, comme disait Donatienne, c'est pas non plus accessible à tous, mais à partir du moment où on sait écrire un papier, un bic, ou bien maintenant, effectivement, par exemple, un smartphone, et hop, on peut créer, en fait. Malgré tout, il y a toute une série de personnes qui ne s'imaginent pas que ce soit possible. Et je pense, par exemple, en particulier aux jeunes, quand on travaille justement dans les écoles en particulier, notamment des écoles, j'ai par exemple, tu l'évoquais tout à l'heure, travaillé à l'école intégrée avec des personnes qui sont porteuses de handicap, notamment sourdes et malentendantes ou alors atteintes de handicap moteur. Mais ces personnes ne s'imaginent pas qu'elles puissent en fait écrire, et voilà, quand on développe comme ça un parcours d'écriture, se rendre compte que en fait écrire peut leur permettre en fait de s'exprimer, de sortir ce qu'elles ont en elles pour en faire quelque chose d'artistique à transmettre, eh bien c'est comme une découverte en fait, et donc du coup ça leur donne la possibilité, au-delà de ce projet-là, de répéter la chose, d'explorer cette possibilité de s'exprimer par l'écriture. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est beau quand on y arrive. Et au niveau aussi des personnes qui qui ne savent pas écrire, ben, on travaille aussi sur l'idée que la littérature est avant tout orale. Au tout début, c'était vraiment la transmission orale qui se faisait. Et donc, de montrer de cette manière-là que oui, on peut imaginer, créer une histoire ensemble. Il y a aussi l'aspect du soutien par le collectif. Mais ça permet effectivement aux personnes aussi de s'emparer, de ne plus subir et de pouvoir se dire mais oui, en fait, je peux raconter, même si je ne sais pas écrire, je peux quand même raconter aux autres. Et je me souviens aussi d'une personne analphabète qui disait ah, mais voilà, maintenant je vais apprendre à écrire. Et donc, et qui voyait le sens d'écrire parce qu'elle devenait actrice, en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi dans l'association, qui fait vraiment fort sens, en fait.
Merci Isabelle. Alors, on évoquait les problèmes d'accessibilité, mais Patrick, tu peux évoquer les histoires qui t'ont choqué par rapport à la culture.
Quand les gens font le projet Escapade en détention, ils ont droit à un stage payé aux Beaux-Arts après libération, dans les 5 jours. Parce que c'est là où il y a souvent des difficultés. Ils sortent de prison, ils ne savent pas quoi faire avec leur liberté, ils refont des bêtises. Donc c'est vraiment libération Beaux-Arts, bonjour à la famille, et on va au travail aux Beaux-Arts, et c'est payé. Donc ils savent quoi faire, et ça fait beaucoup de choses bien. Mais alors, quand je demande aux gens en détention, est-ce que vous savez ce que c'est Beaux-Arts? Ils disent non. Si je leur montre une photo de Beaux-Arts, ils disent, je ne sais pas, à côté de Gare Centrale, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Je ne sais pas. Je leur montre une photo du Flagey. Ils disent que c'est un beau bâtiment, mais ils ne savent pas que c'est une salle de concert à l'intérieur. Donc l'écart entre la grande culture et le peuple, la population, les gens qui vivent dans cette ville, qui payent des impôts pour soutenir tout ça, est immense. Et je ne pense pas que je me trompe si je dis que 5% des gens qui habitent à Bruxelles savent qu'il se passe des concerts dans les murs qu'on va de l'extérieur aux Beaux-Arts. Et c'est cette 59% qui paye les impôts pour financer ce qui se passe dans le Flagey. Donc il y a des choses qui ne fonctionnent pas.
Sylvie,
Moi je voudrais interroger justement par rapport à ça, parce que comment se fait-il qu'un public ne sache pas ce qui se passe à Bruxelles ou même dans son quartier, qu'il y ait des lieux culturels, qu'il y ait des bibliothèques, qu'il y ait la possibilité soit d'aller voir des choses, soit de participer, ou les deux. Comment faire pour justement faire connaître à ce public ces lieux-là, leur faire savoir que ça existe, leur faire savoir que c'est accessible à tout le monde, qu'ils peuvent s'y rendre? Donc je n'ai pas la réponse, c'est une question que je pose.
Je vais peut-être intervenir. Ça fait référence aussi à ce que disait tout à l'heure Donatienne par rapport à la bibliothèque. Tiens, oui, des personnes qui ont des représentations et qui se mettent des barrières elles-mêmes en se disant non, enfin voilà, c'est un bâtiment, mais sans plus. Et donc, en fait, c'est pour cette raison-là que dans un parcours de collectif d'écrit, on se veut nomade. Et donc, on essaye d'être accueilli à chaque fois par un espace socioculturel qui, au début de la rencontre, en fait, explique un peu ses activités. Et de cette manière-là, en fait, les gens découvrent tout ce qu'il y a, effectivement, toute la richesse d'un quartier, d'une commune ou d'une ville. Bon, pas toutes, hein, mais en tout cas une partie. Et peut après revenir. Parce que l'enjeu, c'est de pousser pour la première fois la porte et puis de rencontrer, de rencontrer l'humain à l'intérieur. Et du coup, une autre réponse à cet enjeu-là, c'est de sortir. C'est que, effectivement, les associations culturelles, enfin la culture, sortent dans la rue. Et c'est vrai que c'est aussi une démarche qu'on essaye de développer dans Script Alinea à travers une présence dans l'espace public à des fêtes, même des brocantes, à travers des jeux d'écriture qu'on fait là, mais pour faire connaître aussi le projet, ou alors à l'issue d'un parcours d'écriture, un collectif qui fait une balade dans Molenbeek, par exemple, avec des arrêts et donc des lectures en public. Bon, éventuellement avec une musique qui permet d'attirer le public et qui va toucher. Mais c'est vrai que c'est pas encore, enfin voilà, c'est des petits pas. Et c'est pas pour autant que les personnes qu'on va toucher là ponctuellement vont s'inscrire dans un prochain parcours d'écriture. Donc c'est vrai qu'il faut être patient, que c'est du travail de tous les jours, de toutes les heures. Et voilà, et c'est aussi comme ça que la culture s'invite dans une école ou dans une prison ou dans une maison de retraite, je pense. C'est vrai, la culture qui sort soit dans l'espace public, soit dans d'autres espaces associatifs ou institutions.
Sylvie, je t'en prie.
Bah, je rebondis justement là-dessus parce que c'est une question aussi à laquelle la tricoterie essaye de répondre. Et c'est vrai que ça reste un défi pour eux assez difficile. Et ils font aussi des démarches telles que des théâtres participatifs où le travail se fait à l'extérieur. Donc toutes les répétitions se font à l'extérieur et dans d'autres salles ou dans d'autres lieux ou dans justement des écoles. Et les représentations se font au sein de la tricoterie. Il y a aussi beaucoup de coopérateurs, ce que peu savent, mais beaucoup de coopérateurs de la tricoterie, puisque c'est une coopérative aussi, sont des personnes du quartier. Ce sont des gens du quartier. On pourrait croire que c'est des grands manitous de la culture, mais non, il y a énormément de personnes qui sont du quartier. Et puis, il y a aussi, justement, tu parlais de parcours d'écoute, des parcours dans la ville, ce que fait également la tricoterie. Donc, elle avait mené un projet qui était de découvrir les monuments historiques autour de la tricoterie avec les personnes du quartier pour faire non seulement connaître le patrimoine immobilier du bas de Saint-Gilles, mais également montrer ce qu'un espace culturel peut faire aussi en dehors des murs. Il y a aussi de la médiation culturelle via des rencontres aussi, justement, pour mener des débats et pour amener la confiance aussi entre le public et ce qui peut se faire dans un lieu culturel. Donc il y a vraiment des démarches aussi qui sont faites par là et c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur à la tricoterie, c'est cette volonté aussi de sortir justement des murs.
Alors toi Patrick, au contraire de sortir des murs, tu es entré dans les murs de gens qui sont cloîtrés. Est-ce que tu avais des idées reçues avant de commencer ce projet ? Et est-ce que les gens ont des idées reçues quand tu parles de ton projet justement, Escapade ?
Vous voulez dire des gens qui sont incarcérés ?
Les deux et les gens à l'extérieur, quand tu annonces en quoi consiste le projet Escapade, quand tu as monté ce projet, on ne t'a pas dit « mais tu es fou, faudrait pas faire une chose pareille, c'est un danger ».
En général, les gens ne me contredisent pas. Non, non mais souvent avec des musiciens, ils disent « mais c'est un public qui ne connaît pas ce que nous on fait, est-ce qu'ils vont pouvoir comprendre ce qu'on fait ?» Je dis, ça, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'ils seront silencieux ? Je dis, oui. Est-ce qu'ils savent qu'il ne faut pas applaudir entre les morceaux ? Parce que souvent, je dis, ils ne savent pas, ce n'est pas un problème. Et puis les musiciens commencent à jouer. On travaille tous les ans, il y a un des géants de piano qui vient tous les ans pour ce que je fais, Lubimov. C'est quelqu'un de très bien, 82 ans, quasi aveugle, mais quand il joue, c'est comme un dieu. Il dit, est-ce qu'il faut vraiment expliquer ce que c'est Brahms, ce qui se fait ? Je dis, non, on n'explique rien. Vous jouez, et si vous jouez bien, le public sera très doux et silencieux. Il dit, c'est pas vrai, il faut expliquer. Il joue, et puis après, il m'a dit, c'est vrai, je n'ai pas entendu la musique. Il n'y a personne qui fait comme on fait l'habitude dans les maisons d'opéra. Il y avait personne qui faisait ça. Et ça lui a choqué. Donc, il a commencé à téléphoner ses amis. 70 ans, des grands noms qui disent qu'il faut aller là parce que c'est un public qui ne connaît rien de la musique classique. Ils sont tellement écoutants. Donc, ça lui a touché.
Merci beaucoup, Patrick. Alors, Donatienne, Tu as un projet en cours. Tu peux nous faire la genèse de ton projet avec Charline?
Juste avant le Covid, j'avais envie de créer un collectif d'écrit. Donc, j'étais déjà dans Script Alinéa. Et bon, pour des raisons diverses et variées, entre autres à cause du Covid, justement, ça n'a pas fonctionné. Et puis, j'ai une amie dont la maman a dû être en maison de repos depuis 2 ans. Et elle m'avait demandé si je pouvais pas animer des ateliers théâtre ou d'écriture dans cette maison de repos, qui se trouve tout près de chez moi, à la Porte de Halle. À nouveau, pour diverses raisons, j'ai pas pu le faire tout de suite. Mais en discutant à droite, à gauche, et entre autres avec Isabelle, enfin, je ne sais plus très bien comment c'est venu, disons que les étoiles se sont assez bien alignées pendant l'automne et l'hiver 2023. Donc j'ai rencontré Charline, qui fait aussi partie de Script Alinéa et du collectif La Compagnie des Scribes. Donc on s'est rencontrés, on a discuté de nos envies, elle aussi voulait s'investir davantage dans un collectif. Et on avait toutes les deux envie de travailler avec le public des personnes âgées. Alors moi, c'est un public... Alors je ne vais pas dire que j'ai l'habitude, ça serait faux. Mais dans mes cours de français langue étrangère d'alphabétisation, j'ai eu beaucoup, beaucoup... Enfin même, en fait, c'était la majorité de femmes qui avaient plus que 60 ans. Alors bon, on ne peut pas dire que c'est âgé. Mais il y a quand même la question de la mémoire et de la mémorisation... qui arrive, surtout quand on apprend une nouvelle langue et une nouvelle écriture. Et donc ça m'intéressait de ne pas travailler cette écriture-là uniquement d'un point de vue linguistique, mais aussi d'un point de vue créatif. Et je me suis rendu compte que souvent l'écriture est considérée comme quelque chose de sacré. On pense toujours à des grands auteurs, à des grands poètes, mais que les personnes ne se disent pas « Ah tiens, comme disait Isabelle, nous, on peut écrire aussi ». Et donc on s'est dit « Tiens, en maison de repos, ça serait chouette ». Parce que elle aussi a fait des ateliers. Enfin, elle a déjà travaillé en fait en maison de repos. Elle est en stage pour l'instant à Sainte-Monique pour sa formation en art-thérapie. Et donc, on a discuté de ça et on s'est dit tiens, pourquoi pas trouver un lieu dans notre commune ou à proximité ou créer un collectif d'écrit. Et donc, pour l'instant, on est en discussion, etc. Mais on a trouvé. Et alors, c'est très particulier parce que c'est un lieu, donc c'est une maison de repos qui travaille avec la méthode Montessori. Ils sont très, très axés donc, sur tous les domaines artistiques. Et donc, on leur a proposé leur projet. Ils étaient très enthousiastes parce qu'ils avaient essayé de monter des ateliers d'écriture, mais ils n'avaient jamais pu aboutir. Et donc là, le concept de collectif d'écrit les intéressait beaucoup. Et donc, on espère commencer fin mai. Et donc, une autre particularité de ce lieu, c'est que ce sont toutes des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou apparentées. Donc, il y a vraiment la question de la mémoire, pour le coup, qui rentre en jeu. Et donc, ou le langage, donc c'est pas toujours facile non plus. C'est pas accessible en permanence, H24. Et finalement, on s'est dit, bah pourquoi pas? Comme disait Isabelle, il y a plein de façons de capter le langage, les histoires, la créativité, l'imagination. Tout le monde a de l'imagination, même ceux qui disent qu'ils en ont pas, ils en ont toujours. Et donc, c'est comment susciter ça? Comment susciter auprès d'eux l'envie de raconter? Alors, se raconter. Mais pas forcément, on peut raconter plein d'autres choses. Et donc voilà, ça c'est notre objectif, disons, l'envie d'aller à la rencontre de ces personnes-là et de leur présenter nos envies et de voir comment ça fonctionne et donc de leur proposer pour commencer des activités d'écriture créative, ludique, et pour après choisir un thème et puis suivre le parcours comme on fait d'habitude dans les collectifs. Voilà.
Merci Donatienne. Alors, Eva aussi, tu organisais avant le Covid beaucoup de concerts en maison de repos, bénévolement.
Éventuellement, à travers de l'académie, on a amené nos élèves en fait pour pouvoir présenter un autre public que d'habitude par rapport de l'académie ou de concerts de profs. Et j'ai trouvé que c'était génial parce que quand on arrivait avec les petites boutchous, quand on arrivait avec nos groupes de l'éveil musical, ça donne tout à fait un autre aspect. Déjà pour les gens qui écoutaient, les habitants de maisons de repos étaient très contents de voir des petits-enfants entre 5 et 7 ans. Plus tard, on a amené tout doucement aussi des élèves de première classe là, entre 8 et 10 ans. Donc, il y avait finalement une rencontre quasi entre les petits-enfants et des grands-parents qui fonctionnaient très bien. Et
merci Eva. Alors, Serge, tu peux rappeler que l'académie, c'est jamais trop tard pour y venir, peu importe l'âge, le niveau.
Absolument. Puis, comme l'a dit Eva tout à l'heure,
Je crois que j'ai en fait dit une petite bêtise, puisque en fait, on peut commencer l'académie à partir de 5 ans. C'est la préparatoire 1. Donc c'est même plus tôt que ce que j'ai dit tout à l'heure. Et comme l'a dit Eva, voilà, il n'y a pas de, il y a pas de palier d'âge. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui étaient retraités, qui voulaient, voilà, ils avaient toujours voulu faire du théâtre et ils s'inscrivaient pour leur plus grand plaisir et le mien aussi, souvent. Je voulais aussi rebondir sur ce que j'ai entendu tout à l'heure. Je pense qu'il est très important. Moi, je vois ça sous deux facettes, en fait, le parcours. Je parlerai d'un parcours que je fais avec les élèves. Je pense qu'il y a vraiment deux aspects ici à l'académie. Il y a l'aspect créatif, on en parlait tout à l'heure, effectivement. Il m'est arrivé de créer des spectacles par écriture, par improvisation et en écriture avec les élèves. Donc, c'est leur montrer, oui, les gars, tout le monde peut faire du théâtre. Puisqu'il n'y a pas de prérequis, tout le monde peut en faire. Et à côté de ça, c'est d'aller voir effectivement dans les théâtres. Donc, on parlait d'ouverture sur l'extérieur. Je trouve ça très, très important. J'ai eu des collaborations avec des bibliothèques. On a présenté des spectacles, notamment c'était à Saint-Gilles, je crois, dans une bibliothèque à Saint-Gilles. On a travaillé sur des plateaux en Espagne. J'ai fait pas mal de trucs. Et je trouve que c'est très important. C'est la pratique. Et puis alors, on va voir et on a un regard différent. Donc, c'est un accès aussi à la culture et au théâtre. Ce comédien-là, ça nous fait penser à ce qu'on a fait au cours, dans les exercices. Je pense que les deux choses sont très importantes. Il y a vraiment cette ouverture qui est pour moi fondamentale. On ne peut pas travailler comme ça en vase clos. Et c'est pour ça que, j'ai oublié de dire, je suis aussi directeur adjoint à mi-temps de cette académie. J'encourage le plus largement possible les projets ou de collaboration entre les différents domaines, que ce soit entre le domaine des arts de la parole et du théâtre, ou alors même une collaboration entre deux instruments différents. Et on fait souvent des présentations de déclamations avec des musiciens. C'est d'une richesse incroyable et ça montre que, en fait, une des grandes ouvertures ici, c'est qu'il n'y a pas de frontières, en fait. On se met souvent, on en parlait tout à l'heure, des frontières en tête, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La culture est un tout avec différents aspects, mais qui se complètent les uns les autres. Ça, je trouve que c'est très important ici en Académie.
Merci beaucoup, Serge, pour ces belles paroles qui vont clôturer l'émission. Donc, je vous remercie tous d'avoir accepté l'invitation. Merci Isabelle, merci Donatienne, merci Eva, merci Serge, merci Patrick et Sylvie.
Merci à toi Séphora pour cette préparation, cette animation, c'était passionnant.